Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite, puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine, voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute.
Bonjour à tous, il n'y a pas de vacances pour la justice en Algérie. Le parquet du tribunal de Tamanrasset a condamné un journaliste à 3 ans de prison ferme, un correspondant du journal Liberté qui a été placé sous mandat de dépôt. Il lui est reproché une série d'articles sur la région sud de l'Algérie, notamment la création d'un compte électronique qui, selon l'accusation, a servi à diffuser des informations susceptibles de provoquer la ségrégation et la haine dans la société. Les avocats du journaliste, bien évidemment, s'offusquent de tels propos et de telles accusations, estimant que le journaliste n'est en rien coupable de quoi que ce soit, que celui-ci s'est limité à retransmettre des informations. Mais visiblement, cela n'a pas plu aux autorités algériennes, qui ont décidé une peine d'emprisonnement de 3 ans ferme. Également la justice, avec cette fin de cavale pour l'ancien patron de la Sonatrach, la toute puissante compagnie en charge de la gestion des hydrocarbures, à la fois le pétrole et le gaz, Ould Kaddour. Il était dans le Golfe depuis environ 4 mois. Il est rentré à bord d'un avion. Il a pu être présenté devant la justice. Il va devoir rendre compte d'accusations de drogue et de corruption. L'Algérie sur le front du Covid-19, avec toujours une progression de la pandémie et toujours de grandes tensions dans les infrastructures hospitalières algériennes quant à la disponibilité d'oxygène pour les personnes qui sont en détresse respiratoire. Le Premier ministre Ayman Ben Abderrahmane a tenu une réunion gouvernementale consacrée à des examens de plusieurs dossiers, notamment celui de l'industrie pharmaceutique. L'objectif est de relancer ce secteur d'activité, ainsi pour limiter l'importation des produits non essentiels, favoriser la production locale et ceci en quantité suffisante, mettre en place une nouvelle plateforme numérique qui devrait prendre en charge tous les programmes prévisionnels de protection, d'accompagnement des personnes qui sont aujourd'hui victimes ou sous la menace d'une pandémie type Covid-19, mais il risque d'y en avoir d'autres. Donc voilà, l'Algérie essaye de réagir en insufflant un nouveau dynamisme à son industrie pharmaceutique. La suite de l'actualité judiciaire, mais cette fois-ci en Tunisie, le procureur de la justice à Tunis a décidé de placer en détention un député de Khaltounès, Jedi Dizboui, qui a été entendu par la brigade d'enquête et de recherche de la garde nationale. Lui sont reprochés des faits de corruption. Il est placé en garde à vue, une garde à vue qui est renouvelable. Notons que 2 députés ont eu maille à partir avec la justice ces derniers temps. Yassine Ayari, qui avait été condamné en 2018 pour avoir porté atteinte à l'armée nationale, il vient d'être placé en détention, donc quelques années après les faits. Et puis Faisal Tebini également, qui a été placé en détention après des plaintes qui avaient été déposées pour lui en 2019, qui étaient relatives à des appels à la désobéissance civile. La Tunisie qui a remboursé hier un emprunt international, un énorme effort de la part de Tunis, 503,5 millions de dollars. Il fallait faire cet effort pour restaurer la confiance entre la Tunisie et les bailleurs de fonds. La Tunisie aujourd'hui a besoin d'argent pour sortir de la crise du coronavirus, pour essayer de redresser le pays. Mais si la Tunisie ne rembourse pas ses emprunts, cela pose un problème de confiance. Donc Tunis se devait d'envoyer un message. C'est chose faite avec ce chèque de 503 millions de dollars qui a été signé par le palais de Carthage. C'est une information importante. Nous pourrions même avoir la tentation de dire certainement l'une des informations les plus importantes de la semaine, de ces derniers jours, puisque cela est passé certes quasiment inaperçu, mais c'est une initiative tout à fait importante qui vient d'être prise par le Premier ministre Dbeiba en Libye. Il a demandé à 5 de ses ministères d'organiser, de préparer l'intégration des milices dans les institutions de l'État. C'est là un chantier absolument colossal. Comment réussir à faire rentrer dans le rang des hommes qui se sont battus pour certains depuis plus de 10 ans? Ce sont des gens qui ont pris des habitudes, souvent de mauvaises habitudes, de vivre avec les armes à la main. Il s'agit, selon le Premier ministre libyen, de les faire revenir au sein même de l'institution étatique, donc de garantir un salaire à ces hommes qui se sont battus, qui ont fait la guerre et qui ont le droit aujourd'hui donc d'avoir une seconde chance, de telle façon à ce qu'ils arrivent ensemble, l'État et toutes ces milices, à restaurer un État de droit avec une force nationale qui dispose de tous les droits de l'armement et de la coercition, et puis des citoyens qui sont au travail, chacun étant dans son rôle. La dissolution des milices, c'est demandé par tout le monde, tous les bailleurs de fonds, tous les pays partenaires de la Libye. Le Premier ministre Dbeibah se lance dans ce chantier qui est éminemment ambitieux. Oui, c'est vrai, mais il faut absolument en sortir, parce que sinon ce pays aura les plus grandes difficultés pour retrouver les voies de la normalité. Et puis sur la Libye, on peut aussi signaler, sur le terrain de la lutte anti-coronavirus, que 800 000 doses de vaccins Sinovac sont arrivées à Tripoli. C'est le 11e envoi qui vient d'être fait par les Chinois à des du théâtre libyen. Le Maroc, une trentaine de candidats à l'immigration clandestine, parmi eux il y avait des enfants, ont été secourus. Cela s'est passé au sud du port de Laayoune. C'est la marine royale qui est intervenue pour sauver ces vies en péril de candidats à la migration clandestine. Et puis citons également, puisqu'on est sur le sud du Maghreb, la Mauritanie qui décide de se relancer dans le secteur du tourisme. Alors c'est sûr que la période ne s'y prête pas vraiment, avec toutes ces décisions qui ont été prises de restrictions de mobilité, mais il y a l'espérance de ce pass sanitaire. C'est vrai que le secteur du tourisme est promu un très bel avenir en Mauritanie. C'est un grand pays, il y a la mer, il y a le désert, il y a l'aventure, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent beaucoup plaire à un public européen, russe, asiatique, donc pour essayer de relancer ce secteur d'activité économique qui est pourvoyeur potentiellement de devises. Eh bien, la décision a été prise à Nouakchott de travailler sur ce dossier de la relance du secteur économique. La situation en Afghanistan, avec ces quelques éléments qui amènent à pondérer l'analyse consistant à dire que la ville de Kaboul serait prête à tomber. Autant les talibans ont pu conquérir de vastes zones rurales, autant la prise des villes est éminemment difficile. Lashkargah, Kandahar, Herat, ce sont là des villes qui pour l'instant résistent toujours à la poussée des talibans, qui ont des facilités dans les montagnes, qui ont des facilités dans les vallées. Mais lorsqu'il s'agit de prendre des villes de gros bastions, il est beaucoup plus difficile pour eux de travailler militairement et de faire tomber ces villes. Sachant qu'il y a aussi une analyse qui vient d'être produite par un haut responsable du ministère russe des Affaires étrangères, Alexander Vikantov, qui vient d'apporter son analyse, et il estime que les talibans aujourd'hui manquent de moyens pour s'emparer, pour tenir les grandes villes, notamment, c'est vrai, la capitale Kaboul, mais également pour ce qui est de Lashkargah. Eh bien, l'armée afghane a procédé à du renforcement de position. Il y a des forces spéciales américaines qui ont été envoyées dans la région. Donc il y a toujours le départ des Américains. Le 11 septembre, ce sera terminé, mais des forces spéciales ont néanmoins été déployées en urgence. Les Américains ont très longtemps demandé aux autorités de Kaboul de recentrer leurs forces sur les grandes villes et de les tenir quoi qu'il en coûte. Les autorités de Kaboul, elles, voulaient être présentes en zone rurale. Il s'avère que sur ce point, les Américains ont plutôt raison, puisque les campagnes sont perdues. Il reste les villes. Est-ce qu'aujourd'hui les talibans ont les moyens, les capacités militaires pour faire tomber une à une les grandes villes d'Afghanistan? C'est une question qui se pose.
Ce proche Proche-Orient si loin de nous.
Le Proche-Orient, encore en souffrance, encore des tirs qui ont résonné entre la frontière du Sud-Liban et Israël. C'est le mouvement du Hezbollah qui a tiré 19 roquettes à destination du territoire israélien. Ceci en réplique à cette frappe aérienne qu'il y a eu dans le courant de la semaine, mais celle-ci qui répondait déjà à 3 autres départs de roquettes, et celle-ci qui répondait déjà à des frappes de roquettes de factions palestiniennes, c'était le 20 juillet dernier. Donc on le voit, c'est un cycle de réponse, c'est un cycle d'escalade. Alors Israël dit tout de suite ne pas vouloir envenimer la situation à la frontière avec le Liban. En Israël, tout le monde a en souvenir cette opération militaire de 2006 qui avait été très difficile contre le Hezbollah, solidement ancré dans la zone du Liban. Mais le fait est, c'est que même si personne ne veut renouer avec le scénario de 2006, aujourd'hui, il y a une véritable montée en puissance entre le Hezbollah et Israël. Jusqu'où cela peut-il monter? Qui a intérêt à faire monter les échéances? Le Hezbollah, peut-être, même si le pays, si le Liban est aujourd'hui en proie à une crise économique absolument désastreuse. Est-ce que ce serait le moment de faire la guerre? Est-ce que Israël aurait aujourd'hui intérêt à lancer les hostilités avec le Sud-Liban, sachant qu'il serait à craindre que le Hamas se réagissent par solidarité avec le Hezbollah et se mettent à ouvrir le feu sur Israël. Donc on le voit, c'est un jeu qui est éminemment complexe. On serait tenté de dire que finalement, c'est le verre à moitié plein, à moitié vide. Il y a autant de bonnes raisons pour ne pas conduire à l'augmentation des hostilités, mais autant de mauvaises raisons pour le faire. Plus que jamais, nous sommes au Proche-Orient à l'heure des incertitudes. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'était pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.